l'heure de notre rendez-vous mensuel avec le CERTAM, le Centre d'évaluation et de recherche sur les technologies à destination des aveugles et malvoyants, représenté aujourd'hui par Jean-Pierre Carpanini. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Benjamin.
Merci d'être des nôtres.
Merci.
Moi je constate une chose en tous les cas, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un truc vraiment difficile à expliquer, hein, à chaque fois qu'il y a une démonstration qui demande quand même une grande spécialisation, c'est vous qu'on envoie au charbon, c'est une preuve de votre savoir-faire. On parlera dans un instant justement de l'appareil que vous voudrez bien nous faire connaître un petit peu davantage, en tous les cas, quant à l'utilisation qui peut en être faite par les malvoyants. Ce sera très précisément l'iPad. Mais auparavant, un petit retour en arrière sur ce dont vous avez parlé les mois derniers.
Alors oui, effectivement, le mois dernier, on a, avec Linda, qui nous donne un très grand coup de main au sein du CERTAM, nous avons pu faire la démonstration des loupes électroniques I Love You, de la société Chris Park Design.
Avec toujours le même jeu de mots, que j'aime bien.
Voilà. Donc il y avait trois loupes, en fait toute la gamme de ce fabricant, hein, un modèle de base, un modèle intermédiaire avec des écrans de 4,3 pouces de diagonale, et un modèle plus récent et plus haut de gamme avec un écran de 7 pouces de diagonale. Donc pour ces trois produits, le CERTAM a publié des fiches d'évaluation qui sont consultables donc sur notre site à l'adresse www.certam.com.
Très bien. Et vous pourrez le constater, comme à chaque fois d'ailleurs que le CERTAM publie des fiches, concernant ces loupes, ces fiches ne sont pas loupées. Oui, Jean-Pierre, oui, je vous ai interrompu.
Une autre évaluation qui a été faite depuis le mois dernier, c'est sur une plage tactile qui a quelques fonctions de bloc-notes également, qui est l'Alva BC640. Donc là aussi, cette fiche est consultable sur le site du CERTAM.
Alva BC640.
BC640.
D'accord. Très bien. Et ça, ce sont des nouvelles fiches qui viennent d'arriver récemment, là, très très récemment.
Qui sont arrivées récemment depuis notre dernière émission du mois dernier.
Alors, j'imagine que vous n'avez pas fait le compte, mais il y a combien aujourd'hui de fiches que l'on peut consulter grâce au CERTAM et qui sont effectivement en rapport avec des appareils qui, j'allais dire, dont la durée de vie est encore très très importante, quoi.
La totalité, je ne pourrais pas vous la donner, on n'a pas fait le compte. Sur l'année 2012, on est à peu près à une trentaine d'évaluations.
Et les fiches, vous mettez longtemps avant d'élaborer une fiche? Comment ça se passe entre le moment où vous vous saisissez de l'appareil et le moment où la fiche paraît?
Tout dépend du produit, en fait. Hein. On a des produits qui sont plus ou moins complets au niveau des fonctionnalités, enfin plus ou moins complexes plutôt au niveau des fonctionnalités. Donc un système d'agrandissement, une petite loupe électronique portable avec très peu de fonctions, son évaluation pourra être assez rapide. Par contre, pour un bloc-notes braille avec des fonctions d'édition de texte, d'agenda, etc.
Oui, parce qu'il faut le tester en grandeur nature et donc ça demande un certain temps.
Voilà, et il faut tester toutes ces fonctionnalités. Donc plus l'appareil dispose de fonctionnalités, plus il est entre guillemets technique, et plus cette évaluation demande du temps.
Vous êtes intéressé par les nouvelles technologies, n'hésitez pas, hein, les nouvelles technologies à destination des aveugles et malvoyants, certam-avh.com.
Voilà, tout à
très bien. Jean-Pierre, on passe tout de suite au vif du sujet, le iPad.
Oui, donc l'iPad, on va déjà essayer de dire...
Alors c'est une vedette aujourd'hui l'iPad,
c'est une vedette, hein. Donc on va très très rapidement dire ce qu'est l'iPad. Donc l'iPad, c'est une tablette. Donc une tablette, c'est un système qui s'est, je vais oser le mot, c'est un petit peu substitué aux ordinateurs portables dans les usages. Pourquoi ? Parce que c'est un système tactile, avec un écran tactile. Les dimensions sont généralement... ça va de 5-6 pouces à 10 pouces. Il en existe énormément de modèles. Principalement, les systèmes d'exploitation utilisés sur les tablettes, c'est le système Android. Et pour Apple, le système iOS. Et donc, c'est principalement, enfin c'est là le sujet d'aujourd'hui, c'est sur ce système-là, donc c'est sur la tablette d'Apple sous iOS qui s'appelle iPad, que va porter le sujet d'aujourd'hui.
Si je vous entends bien, Jean-Pierre, l'intérêt premier d'une tablette ou de l'iPad en l'occurrence, c'est son gain de place. Parce alors que sinon, il a pratiquement toutes les fonctionnalités d'un ordinateur.
Alors, effectivement, c'est son gain de place. C'est le fait de pouvoir démarrer l'appareil et d'avoir un démarrage beaucoup plus rapide. La transportabilité, c'est des appareils qui font généralement dans les 500-600 grammes, qui sont très légers, très faciles à transporter.
Très faciles à transporter.
Et à utiliser. C'est l'interface 100% tactile. Donc l'utilisation ne nécessite pas un clavier ou des touches en relief. On l'utilise tactilement pour l'ensemble de ses fonctionnalités. Après, j'ai un petit peu exagéré le trait en disant que ça remplace un ordinateur portable. On retrouve des fonctions qui peuvent être identiques à celles d'un ordinateur portable. Il y en a d'autres.
Dont on aura peut-être l'occasion de parler dans un instant.
De parler, tout à fait.
On va vous laisser respirer, vous l'avez bien mérité, et on reviendra juste après pour continuer à parler de l'iPad et de l'utilisation qui peut en être faite par les malvoyants. On va le faire après une chanson.
La vie des associations, Benjamin Moreau.
Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Pierre Carpanini, qui représente le CERTAM, le Centre d'évaluation de recherche des technologies à destination des aveugles et malvoyants. Et nous parlons aujourd'hui de l'utilisation, surtout Jean-Pierre, de l'utilisation de l'iPad pour les malvoyants, parce que cet appareil a été bien pensé.
Oui, on a un appareil effectivement qui est bien adapté, pour l'utilisation par une personne malvoyante. Déjà au niveau de l'affiliation, l'iPad, c'est un produit qui a suivi en fait la sortie de l'iPhone. L'iPhone étant le téléphone, le smartphone de la société Apple. Et sur ce smartphone, on a eu très rapidement une accessibilité qui a été intégrée au système.
Oui, c'est très étonnant, effectivement. Moi qui suis même un médiocre utilisateur d'iPhone, mais que je connais le produit, effectivement, c'est étonnamment bien pensé. J'allais dire pour un coup d'essai presque, c'était un coup de maître.
Hein. C'était un coup de maître. Hein. Donc une accessibilité pour différents types de handicaps. En ce qui concerne le handicap visuel, on a un lecteur d'écran qui s'appelle VoiceOver, directement intégré dans le système. Donc, et pour les personnes malvoyantes, une fonction qu'on appelle Zoom, qui permet d'agrandir l'information qui est affichée à l'écran. Mmh. Donc, suite à la sortie de l'iPhone, début 2010, on a eu la première génération d'iPad, suivi d'assez près par l'iPad 2 au premier trimestre 2011. Puis d'une troisième génération, qu'on a appelée évidemment l'iPad 3.
Il y a une vraie logique là-dedans, on le sent bien. Hein.
Donc avec une nouveauté assez intéressante pour la malvoyance, c'est un écran Retina, donc une meilleure qualité, une meilleure définition au niveau de l'écran. Et puis depuis très peu de temps, depuis octobre dernier, on a l'iPad 4 et puis l'iPad mini. L'iPad mini, c'est un petit peu une révolution dans le monde de l'iPad parce qu'on change de format jusqu'à l'iPad 4. On a un écran qui fait 9,7 pouces de diagonale, donc à peu près 25 cm. Mmh. Et avec l'iPad mini, on a un écran plus petit. De 7,9 pouces, donc un appareil qui est plus maniable, mais qui reprend exactement les mêmes fonctionnalités.
Oui, mais alors je vais vous poser une question de Béotien. Vous me disiez tout à l'heure que justement, ce qu'il y avait de bien dans l'iPad pour les personnes malvoyantes, c'est qu'on avait agrandi l'écran. Oui. Si soudain on rétrécit l'appareil, comment fait-on pour agrandir l'écran ?
Alors, on a les mêmes fonctionnalités. L'écran, effectivement, est plus petit. Il reste cependant plus grand que sur un iPhone. Donc tout va dépendre de l'utilisateur. Donc certains utilisateurs vont préférer effectivement une taille d'écran plus importante. D'autres, au contraire, vont trouver que l'écran de taille plus réduite leur suffit. Et ils vont gagner en compacité, ça va être un appareil plus facile à transporter, plus facile à ranger.
Entre l'iPad mini et, par exemple, l'iPad 4, vous ne voyez pas de différence. Et tout le cas, vous ne voyez pas d'opposition à ce qu'une personne malvoyante puisse utiliser l'un ou l'autre selon ses désirs.
Pas du tout. C'est vraiment en fonction de l'usager. Donc, certains vont se tourner davantage vers le l'iPad mini, d'autres davantage vers l'iPad 4. L'iPad mini se rapproche plus de du format des liseuses. Les liseuses, ce sont ces appareils électroniques qui sont principalement dédiés pour la lecture de livres. Donc on a un format qui est plus proche effectivement de ce type d'appareil.
Vous allez vous attacher plus particulièrement à nous parler de l'iPad 4 ou bien ce que vous allez dire pour l'iPad 4 vaudra de toute façon pour l'iPad mini?
Alors ça vaudra pour l'iPad mini. L'appareil qu'on a amené, c'est un iPad 4. Donc les explications se feront à partir d'un iPad 4, mais valent tout à fait pour un iPad mini.
D'accord.
Il n'y a pas de différence.
Une petite description, Jean-Pierre, de cet iPad 4?
Oui. Alors, la taille de l'écran, comme je l'ai indiqué, 9,7 pouces de diagonale. Au niveau des éléments physiques sur l'appareil, on a sur la tranche supérieure un bouton de mise en route, un bouton marche-arrêt. On a toujours sur la tranche supérieure un connecteur pour pouvoir brancher un casque ou des haut-parleurs externes. On a sur la tranche droite un commutateur pour activer ou désactiver la rotation automatique de l'écran, ce qu'on appelle la rotation automatique de l'écran. Lorsqu'on pivote l'appareil en mode paysage, l'information pivote avec l'écran. Un bouton de réglage du volume sonore. Et puis donc sous l'écran, donc la partie supérieure est quasiment en totalité occupé par l'écran. Tout à fait en bas, on a le seul bouton physique de l'iPad, qui est un petit bouton concave qui est principalement en fait utilisé pour quitter une application ou gérer le multitâche.
Vous dites le seul bouton physique, mais tout de même le bouton marche-arrêt, le bouton volume, ce sont des boutons physiques?
Oui, ce sont effectivement des boutons physiques, mais qui vont permettre de mettre en route l'appareil.
Oui, de mettre en route, d'accord. C'est le seul bouton physique, on va dire, qui va servir à
interagir avec les applications.
C'est ça. D'accord.
En dernier élément, c'est le système optique, puisqu'il y a une caméra qui permet la prise de vue, donc aussi bien photographie que film, qui est disposée donc, à l'opposé de l'écran, donc en partie inférieure.
Alors si vous le voulez bien, Jean-Pierre, nous allons nous arrêter de nouveau, à présent que vous avez fait une belle description de cet iPad 4, qui vaut hein, en gros pour l'iPad mini également. On va s'arrêter pour une chanson et on revient juste après.
La vie des associations, Benjamin Moreau.
Aujourd'hui, place à une belle démonstration de Jean-Pierre Carpanini du CERTAM, le Centre d'évaluation de recherche des technologies à destination des aveugles et malvoyants. C'est une démonstration du fait que les malvoyants peuvent utiliser l'iPad, Jean-Pierre Carpanini.
Oui, on peut effectivement utiliser les fonctionnalités d'accessibilité offertes par le système d'exploitation de l'iPad. Pour améliorer l'affichage et agrandir en fait l'information affichée. Donc on va pouvoir peut-être rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai un iPad devant moi. L'iPad sur son écran tactile sont représentées différentes icônes. Chaque icône possède un titre et correspond à une application. Donc on a des applications pour prendre des notes, un calendrier, on a la possibilité de rédiger ses mails, d'envoyer et recevoir des mails, écouter de la musique, etc. Et on a un icône permettant de régler les paramètres de l'iPad. C'est par ce biais qu'on va activer la fonction zoom, donc la fonction d'agrandissement. Donc on se rend sur cette option de réglage. Dans réglage, on a un onglet général. Dans général, une option accessibilité.
Je vais quand même poser une question des plus bêtes, mais j'ai l'habitude et vous avez l'habitude de répondre à mes questions les plus bêtes. Avant justement qu'on procède à ce réglage, est-ce que malgré tout, toutes ces possibilités qui nous sont données, est-ce que la personne malvoyante peut quand même les voir, j'allais dire, parce que vous savez ce que c'est, hein, vous voyez ce que je veux dire?
Alors, au sortir de la boîte, on a la possibilité d'activer par un triple appui sur le bouton de l'iPad la fonctionnalité voice-over, donc la vocalisation.
Ah d'accord, au départ, c'est ça.
Voilà, au départ. Donc, c'est une fonction qui est peut-être davantage utilisée par les non-voyants,
les aveugles,
ou les personnes qui sont très malvoyantes. Mais on va de ce fait, une fois que la synthèse vocale est activée, le lecteur d'écran activé, on va pouvoir accéder de façon autonome à l'activation du zoom.
Du zoom. Et puis après, effectivement,
le lecteur d'écran.
Le lecteur d'écran.
Voilà. Donc, dans général, accessibilité, on retrouve différentes options concernant les problèmes de vision. Donc, voice-over, bien évidemment, et zoom. Donc, si on va sur cette option zoom, on a la possibilité d'activer ou de désactiver.
D'accord.
L'autre possibilité de lancement, toujours dans l'accessibilité, dans les options d'accessibilité, on peut gérer la fonction du triple clic. Donc, par défaut, c'est le lancement du lecteur d'écran VoiceOver, ce qui permet une utilisation directe au sortir de la boîte.
De la boîte.
On peut changer cette fonction et définir, par exemple, que le triple clic va activer la fonction Zoom.
Ah, d'accord. Ah oui, très bien.
Donc là, j'ai mis le Zoom en actif. Donc j'appuie une seule fois sur le bouton de l'iPad pour revenir à l'écran d'accueil. Si je veux maintenant que le zoom est en mémoire, si je veux l'activer réellement, donc obtenir un agrandissement des informations affichées à l'écran, je vais faire un double tap avec trois doigts sur l'écran.
D'accord. Là, c'est pas esprit et tu là, hein. C'est bien Jean-Pierre qui tapait sur l'écran. Hein.
Un petit peu de résonance sur la table.
Absolument. Non, mais c'est bien.
Donc avec un double tap de trois doigts, j'obtiens un agrandissement par défaut de 200%. Donc on a un agrandissement de deux fois dans le sens horizontal et deux fois le sens vertical.
Ça veut dire que d'ores et déjà, par exemple, si vous éteignez l'iPad et que vous le rallumiez, vous auriez cette même fonctionnalité, ça y est, elle serait acquise ?
Elle est en mémoire.
Elle est en mémoire.
Tant qu'on ne la désactive pas par le menu de
réglage.
De réglage,
d'accord.
Elle reste en mémoire. Alors, on peut momentanément supprimer le zoom en faisant de nouveau un double appui 2-3 doigts.
Oui.
Donc on revient à un agrandissement normal.
Ça réagit un peu comme le voice-over, hein, finalement. Pour les aveugles qui utilisent l'iPhone ou l'iPad, j'imagine, sur la tête dans les mêmes conditions.
C'est une gestuelle spécifique, effectivement. C'est ça. Donc, à la différence de voice-over, la gestuelle spécifique est beaucoup plus limitée avec le zoom qu'avec le lecteur d'écran.
D'accord.
Alors, une fois qu'on obtient un agrandissement de 200%, évidemment, on n'a pas l'intégralité de l'information affichée en même temps sous les yeux. On n'a qu'un quart de l'écran qui est visible.
Oui, parce que ça tient de la place, c'est ça. En gros, c'est ce que vous me dites. C'est-à-dire que l'information tient plus de place sur l'écran, donc forcément, il y a moins d'informations à la fois.
Et on n'agrandit pas physiquement l'écran.
Bien sûr.
Donc il va falloir...
Sinon, pas l'intérêt d'avoir un iPad. Autant prendre un écran plat.
Donc on va pouvoir se déplacer sur l'intégralité de l'écran en utilisant toujours trois doigts. Donc je pose trois doigts sur l'écran et en me déplaçant... Donc en maintenant le contact sur l'écran et en me déplaçant vers le bas, je vais afficher l'information qui se trouve au-dessus. Si j'effectue la même opération mais en glissant les doigts vers le haut, je vais afficher l'information qui se trouve en dessous. Si je vais vers la droite, je vais afficher l'information qui est à gauche et ainsi de suite. Donc on va pouvoir se déplacer sur l'intégralité de l'écran lorsqu'il est zoomé avec ses commandes avec trois doigts. Évidemment, plus on a opté pour un zoom important et plus ça nécessitera de déplacement pour lire l'intégralité des informations affichées.
Plus ça nécessitera d'apprendre le piano, ce sera plus facile. Non, mais je rigole. Jean-Pierre Carpanini est avec nous en tous les cas. Il nous apprend à nous servir, enfin il apprend aux malvoyants à se servir de l'iPad et il va continuer à le faire pour une chanson.
La vie des associations, Benjamin Moreau.
Nous sommes avec Jean-Pierre Carpanini du CERTAM, le Centre d'évaluation et de recherche des technologies à destination des aveugles et malvoyants. Et aujourd'hui, avec Jean-Pierre, nous parlons de l'utilisation qui peut être maximale, on peut dire ça comme ça, par les malvoyants de l'iPad. Jean-Pierre.
Oui. Donc on a vu lors de la précédente séquence l'utilisation de la fonction Zoom pour compléter un petit peu ce qui a été dit. La fonction Zoom permet une plage d'agrandissement d'une taille normale jusqu'à 500%, donc 5 fois dans le sens horizontal, 5 fois dans le sens vertical. Pour modifier la plage d'agrandissement, c'est toujours une gestuelle à trois doigts. Donc on va faire un double tap de trois doigts sur l'écran
On tape, on ne fait pas glisser.
On tape avec
trois doigts.
Trois doigts. On garde le contact sur l'écran à la fin du deuxième tap. Et on va glisser les doigts vers le haut pour agrandir. Ou au contraire, glisser les doigts vers le bas pour diminuer. Donc le maximum, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, hein, c'est 500%. Évidemment, à 500%, on a beaucoup moins d'informations affichées à l'écran. En gros, sur l'iPad que j'ai devant les yeux, j'ai un icône et son intitulé. Donc très peu d'informations.
À 500%, oui, c'est tout ce que vous pouvez avoir. Puisqu'après, voilà. Bon, bien sûr, faut continuer avec les doigts.
Alors, autre chose, c'est que depuis les dernières versions d'iOS, hein, je rappelle qu'iOS, c'est le système d'exploitation qui est installé sur les iPhone et les iPad, le lecteur d'écran, VoiceOver, est compatible avec la fonction Zoom. Donc, on peut, pour les personnes qui sont très malvoyantes ou qui veulent apporter un confort supplémentaire à leur usage de l'iPad, combiner le vocal avec l'agrandissement.
Alors, ça veut dire aussi que le voice-over y suit, c'est-à-dire que si on ne voit que très peu de choses sur l'écran, le voice-over ne nous dira que ce qu'on voit sur l'écran à ce moment-là.
Alors, il y a un suivi automatique du zoom. Le zoom suit ce qu'on appelle le focus voice-over. Le focus voice-over, c'est ce que lit à un moment donné le lecteur d'écran. Donc, je vais activer voice-over.
Voilà.
Si je me déplace, donc là, du coup, je vais utiliser la gestuelle voice-over, hein, qui peut être combinée avec la gestuelle du zoom. Je vais me déplacer d'icône en icône.
Ah oui, alors dans ces cas-là, on suit la gestuelle du voice-over ou celle de...
Alors là, j'utilise la gestuelle voice-over pour me déplacer d'un icône à l'autre.
D'accord.
Et le zoom suit automatiquement. C'est-à-dire que je n'utilise pas la gestuelle de zoom lorsque je me déplace de l'icône horloge à l'icône vidéo. L'écran se déplace automatiquement.
En gros, là, c'est le voice-over qui commande. C'est pas tout à fait ça, technologiquement parlant, mais ça, en résultante, c'est ça.
On peut dire ça. Ce qui est lu en fait à un moment donné possède ce qu'on appelle le focus. Donc physiquement à l'écran, on a l'icône qui est entourée par un cadre, donc c'est l'élément qui est lu par VoiceOver, et le zoom va se centrer sur cet élément.
D'accord.
Voilà, donc je vais désactiver VoiceOver.
VoiceOver désactivé.
Voilà. Okay.
Et on revient uniquement sur la partie zoom. Un autre élément qu'on peut aborder pour améliorer la visibilité de l'écran par les personnes malvoyantes, c'est la possibilité d'inverser les couleurs. On a souvent des usagers qui sont gênés par la luminosité d'un écran ou par le contraste insuffisant des informations affichées à l'écran. Donc on va pouvoir inverser les couleurs. Et, lorsqu'on a par exemple des caractères blancs sur fond noir, on va avoir des caractères noirs sur fond blanc.
Et on peut accentuer justement ce côté noir, blanc ou autre ou pas, où il n'y a pas de possibilité d'infléchir sur les couleurs et sur les contrastes.
Alors avec les fonctionnalités d'accessibilité de l'iPad, on ne peut qu'inverser les couleurs.
D'accord.
On ne va pas pouvoir modifier l'intensité de ces couleurs. Donc c'est toujours au même endroit. Hein. On va dans les réglages. Dans général, on a là aussi toujours donc accessibilité. Je vais réduire un petit peu.
Moi, j'aimerais pas être un iPad, hein, me faire taper comme ça tout le temps. Bon. Marqué, je suis pas une lumière non plus, donc ça risque pas de m'arriver.
Je suis un petit peu brutal peut-être sur l'iPad.
Non, mais si ça fonctionne comme ça, il faut pas hésiter.
Donc, on a une option toujours dans la partie vision. On a une option qui s'appelle inverser les couleurs, tout simplement. Mm-hmm. Dès que j'active cette fonctionnalité, les caractères qui étaient affichés en noir sur blanc sont affichés en blanc sur noir. Et l'ensemble des couleurs sont inversées. Donc ça. Ça améliore en fait le contraste à l'écran, et pour certains usagers, effectivement, ça donne une meilleure lisibilité des textes. Mmh. Donc ça, c'est une autre des fonctions pour permettant aux malvoyants d'utiliser l'iPad. On en a encore une, toujours dans les options d'accessibilité. C'est une fonction qui est appelée Grande Police. Donc Grande Police permet de modifier la taille du texte jusqu'à 56 points. Donc 56 points, c'est une taille relativement importante. Par rapport au zoom, cette fonction a un intérêt, c'est qu'on ne va pas modifier en fait le Comment expliquer ? Vous n'avez pas besoin de déplacer la fenêtre d'agrandissement sur
ça,
sur
ça va pas créer de déséquilibre.
Ça ne c'est pas un déséquilibre, mais vous ne modifiez que la taille du texte, mais l'application en général tient toujours dans la totalité de l'écran, sur
D'accord.
la totalité de la surface de l'écran. Donc vous n'avez pas ce qu'on appelle un effet de défilement horizontal ou vertical à effectuer. Le texte est reformaté pour la taille de l'écran.
L'utilisation de l'iPad par les malvoyants, vue par le CERTAM, le Centre d'évaluation de recherche des technologies à destination des aveugles et malvoyants, plus particulièrement par Jean-Pierre Carpanini, que nous retrouvons dans une chanson.
La vie des associations, Benjamin Moreau.
Ce sont les dernières minutes que nous passons en compagnie de Jean-Pierre Carpanini du CERTAM, le Centre d'évaluation et de recherche sur les technologies à destination des aveugles et malvoyants. Et aujourd'hui, Jean-Pierre est venu nous parler de l'utilisation qui peut être faite de l'iPad par les personnes malvoyantes.
Oui.
Et alors, vous parliez tout à l'heure de l'iPad, Jean-Pierre, et vous nous disiez qu'évidemment, pratiquement, c'est un petit ordinateur. C'est un ordinateur en version mini, en version réduite, quant au gain de place, mais qui peut faire plein de choses. Hein. Et parmi les applications dont vous avez décidé de nous parler, lire un livre, par exemple, oui. avec un iPad ?
Oui, puisque sur les tablettes, une des applications, une des fonctions les plus utilisées sur ce type d'appareil, c'est la lecture de livres. Donc de livres électroniques.
C'est une toute petite parenthèse, simplement, on parlait de l'iPad, mais ça, ce que vous dites, c'est plus valable encore aujourd'hui, c'est mieux encore avec l'iPad 4, c'est bien ça quand même, parce qu'il y a eu ça s'est amélioré.
Alors, il y a eu des améliorations constantes au fur et à mesure de l'évolution des tablettes ou des liseuses. Sur Apple, on a une application qui s'appelle iBooks et qui a évolué également au fil du temps en fonction des différentes versions proposées. Cette application permet de lire le format le plus courant de livres électroniques, qui est le format EPUB, donc un format lorsqu'on achète des livres électroniques sur le site de la FNAC ou par l'Apple Store, qui est le magasin de Apple, les livres sont dans ce format-là. Donc l'intérêt pour les utilisateurs malvoyants, c'est que certaines applications ont leur propre fonctionnalité pour améliorer l'affichage et l'agrandissement des caractères, par exemple. Et c'est le cas pour l'application iBooks. Donc lorsque je lance cette application, j'accède à une bibliothèque. Donc cette partie-là, toute la partie en fait menu et bibliothèque n'est pas agrandie, mais on va pouvoir dans ce cas-là utiliser la fonction zoom qu'on a vue tout à l'heure. Donc je vais pouvoir agrandir l'écran pour choisir le livre qui est posé sur la bibliothèque. Une fois le livre chargé, on a accès à un menu, et ce menu va permettre de modifier la taille des caractères, la luminosité de l'écran, les polices d'affichage ou le thème. Ce qu'on appelle le thème, c'est la couleur du texte et du fond. Donc on a trois thèmes possibles, blanc sur noir, noir sur blanc ou sépia, donc avec des caractères noirs sur un fond sépia. Donc ça, indépendamment des fonctions zoom. Donc on va pouvoir, une fois que ces réglages sont donnés, désactiver le zoom et n'utiliser que les fonctions d'amélioration d'affichage ou d'agrandissement proposées par iBooks.
Alors on est d'accord, par exemple, ça c'est valable pour un certain livre, à un certain moment donné, et vous pouvez là aussi conserver par exemple ce réglage, et lorsque vous allez vous remettre à lire, parce que vous n'allez peut-être pas lire le livre d'un seul coup, vous allez pouvoir retrouver ces mêmes réglages ou pas ?
Oui, les réglages sont sauvegardés. C'est valable quand vous donnez ce type de réglage dans iBooks, ça va être valable pour l'ensemble des ouvrages.
Pour l'ensemble des ouvrages.
Des ouvrages que vous allez consulter. D'accord. Avec iBooks. L'intérêt par rapport à l'utilisation du zoom, c'est qu'on n'est pas obligé d'effectuer pour lire une ligne de texte. On ne va pas être obligé de faire ce qu'on appelle un scrolling horizontal, un défilement horizontal, puisque le texte est automatiquement reformaté pour la taille de l'écran. Donc la lecture est beaucoup plus confortable.
Beaucoup plus fluide.
Le déplacement dans le texte est beaucoup plus fluide. Donc là, on a un exemple vraiment concret d'utilisation conjointe des fonctions zoom de l'iPad pour la lecture des éléments qui ne sont pas agrandis. la bibliothèque, le menu de iBooks et les fonctionnalités d'agrandissement ou d'amélioration de couleur qui sont proposées par l'application elle-même. Et donc, on va pouvoir activer, désactiver le zoom quand c'est nécessaire et utiliser ces fonctionnalités d'agrandissement de iBooks pour le confort de lecture.
Et durant la lecture, c'est pareil, il va falloir agir avec les doigts ou au contraire, le texte va suivre comment...
Alors là, on utilise les fonctions que de tout un chacun. Hein, donc, c'est pas pour le...
Ah oui, là, c'est...
Oui, c'est un simple appui sur la droite de l'écran pour passer à la page suivante.
D'accord.
Sur la gauche de l'écran pour passer à la page précédente. Par le menu, on va pouvoir atteindre le sommaire, etc. Donc là, on retrouve une utilisation qui est une utilisation tout à fait classique de l'application.
Il vous reste quelques secondes pour dire un minimum de mots.
Alors, un minimum de mots. Alors déjà, effectivement, il y a eu une étude, je voulais rappeler, une étude américaine qui a été publiée au mois de novembre, qui indiquait que l'utilisation de l'iPad améliorait sensiblement la vitesse de lecture pour les personnes malvoyantes. Oui. Et puis, je voulais aussi indiquer que le thème de la prochaine émission, donc le thème se portera sur le logiciel Obi du consortium DESI, qui est un logiciel gratuit permettant la création de livres audio au format DESI.
Ben vous nous expliquerez tout ça, Jean-Pierre Carpanini et les autres du CERTAM. Merci infiniment d'être venu nous voir sur l'antenne de Vivre FM et au mois prochain.